Radio Grenouille, Radio Grenouille. Grenouille. 10 minutes avec
la rédaction des 3-8. 10 minutes avec.
Nous sommes toujours en direct la belle de mai. C'est le. Vous écoutez le 88.8 Radio Grenouille qui s'est associé à Hyperville. Alors voilà Hyperville, une plateforme qui vise à documenter les manières de faire autrement la ville, de faire autrement les espaces publics avec toute une série de collectifs d'architectes, de designers, d'artistes et autres qui s'associent pour penser autrement l'architecture, penser autrement l'urbanisme. Et Hyperville, c'est une rencontre ici à Marseille, bien aussi avec des collectifs venant de Madrid. Et Alfonso,
bonjour
Alfonso, qui tout à l'heure, tu traduisais Diego du collectif Todo pour la Praxis. Toi-même, tu es dans un autre collectif. Rappelle-moi le nom de ce collectif.
Montera 34.
En fait. Montera 34. Et il s'avère qu'en Espagne, depuis la crise de 2008, il y a énormément de projets immobiliers qui ont été stoppés net. Un peu du jour au lendemain. Et donc, il y a énormément d'immeubles pas finis, d'une certaine manière, et c'est à cela que vous vous êtes intéressé.
Ouais. En fait, à Montera 34, nous, on est des architectes aussi, mais on a la particularité qu'on ne travaille pas forcément avec les espaces physiques, mais avec les espaces numériques. Ça veut dire qu'on développe des outils numériques et pour expérimenter. Et avec les sujets toujours de l'architecture et de l'urbanisme, mais depuis les côtés numériques. Et en fait, comme tu disais, Manuel, après 2008, la crise en Espagne, on a vu effectivement qu'il y a beaucoup de projets qui n'étaient pas finis, des bâtiments vides. Et en fait, on voulait savoir un peu les conséquences de tout ça. Et on a commencé à chercher. Il a demandé à l'administration s'il y avait des données pour voir un peu les conséquences de la crise en Espagne. Et on s'est retrouvé que aucune administration avait les données. Et alors nous, on a commencé à s'organiser avec plusieurs collectifs en Espagne. Et on a dit, bon, s'il n'y a pas de données, peut-être que c'est nous
qu'allons les faire.
Qu'allons les faire, exactement. Alors, avec plusieurs collectifs, on a mis en commun la recherche qu'avait fait chacun et on a commencé à créer la base de données de cadavres immobiliers. C'est ça, on appelle comme ça.
Oui, alors ces projets immobiliers arrêtés, vous les avez appelés les cadavres immobiliers, vous les avez recensés, vous les avez documentés. Et puis ensuite, vous avez quoi ? Proposé aux gens d'adopter un cadavre immobilier. Mais l'adopter, ça veut dire quoi ?
Oh, c'est, exactement. Et en fait, c'est un projet, on va dire, ambitieux, parce que en fait, il y en a plein de situations comme ça en Espagne.
Alors, c'est par centaines, hein ?
Non. Par exemple, il faut dire qu'en Espagne, il y a 5 millions de maisons vides, par exemple. Et après, il y a des aéroports qui sont vides aussi. Il y a beaucoup de situations comme ça. Alors, documenter tout ça, faire une base de données de tout ça, c'est un travail incroyable. Alors, on a fait un appel à la citoyenneté. Et on a mis en place les projets Adopte un cadavre.
Un cadavre immobilier. Ouais.
Et alors, une personne dans sa ville qui connaît une situation comme ça peut la documenter, l'ajouter à la base de données. Et on va dire de dire qu'un bâtiment en situation comme ça, c'est son cadavre. Et c'est ça.
Qu'est-ce que ça apporte de documenter ? Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça change
en fait,
de savoir qu'il y a un cadavre immobilier ?
Ouais. Pour nous, déjà, avoir toute l'information, c'est très très important parce que ça permet à n'importe qui d'utiliser les données n'importe comment. Le but du projet, c'est de faire la base de données et après, c'est à chacun de décider comment utiliser les données. Et on ne doit pas dire nous. On ne veut pas dire la bonne façon d'utiliser les données. Tout simplement, on met les données à disposition et après c'est à chacun de décider. Ça c'est important et ça permet d'avoir
Alors on a une inondation sur la table. Bon, si il y avait un peu de sopalin, pour faire attention au câble. Et parce qu'il y a aussi un autre projet sur lequel vous êtes intervenu, qui est aussi à un moment donné de questionner le coût, par exemple, du tunnel qui passe sous Barcelone, je crois, ou Madrid.
Sur Madrid, oui.
Sur Madrid, donc grand tunnel qui traverse tout Madrid, comme il y a aussi ce grand tunnel qui traverse tout Marseille. Et vous êtes intéressé au coût de ce tunnel en rapport avec la dette de la ville. Et puis vous avez fait toute une documentation pour montrer la corrélation entre la construction de ce tunnel et puis l'inflation de la dette.
Exactement, parce que en fait c'est un projet qui a commencé à Madrid, la construction de ce tunnel-là, et en 2008 justement. Et en fait, on a trouvé très très bizarre que dans tous les médias, on pouvait pas voir l'interprétation des coûts des tunnels par rapport, par exemple, à chacun des citoyens de Madrid. On n'a pas vu dans les médias, l'administration n'a pas dit non plus que pour chaque habitant de la ville, c'est presque 1 000 euros. Ça a coûté 1 000 euros pour chaque des habitants. Et après, le truc qu'on a fait, nous, c'est prendre les données qui sont publiques, n'importe qui peut les prendre, et faire une visualisation des données pour donner un autre regard, en fait.
Mais est-ce que finalement c'est du data journalisme ce que vous faites ?
Un peu ça, oui.
Mais appliqué à l'architecture ?
Exactement, parce qu'on vient de l'architecture, nous. C'est le secteur que ça nous intéresse.
Donc c'est assez intéressant parce que habituellement, disons les revues d'architecture ou les médias autour de l'architecture sont plutôt portés sur la réalisation des objets, leur esthétique ou les usages même. Bon, je sais pas, les maîtrises d'œuvre, maîtrises d'usage, genre de choses. Alors que vous, votre angle, c'est un angle vraiment une entrée politique. Au sens de, bon, voilà, combien ça coûte, quelles sont les conséquences du projet.
Oui, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, je pense que, bon, nous, on vient de l'architecture, mais aussi, on a eu une pratique très, très attachée à la technologie. Et en plus, il faut dire qu'en architecture, on a une façon de s'exprimer avec les dessins aussi. Alors, on est habitué à transmettre et à communiquer en utilisant les dessins.
C'est-à-dire que vous savez faire de la visualisation.
Exactement, les outils graphiques. Ouais. Maintenant, on a des possibilités incroyables avec la technologie, quoi.
Comment vous vivez comment vous trouvez vos financements? C'est du crowdfunding?
En fait, ça dépend. Il y a des projets qu'on a un appel d'un client qui veut développer une visualisation des données ou une cartographie, par exemple. Mais aussi, il y a en Espagne, souvent, on fonctionne de la façon suivante. On commence un projet parce qu'on a un intérêt particulier. Et après, quand on a le début du projet, il y a peut-être une administration ou une fondation qui va mettre un peu d'argent. En Espagne, c'est souvent comme ça. D'abord, on commence le projet et après, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va s'intéresser.
On peut donner le site internet ?
Ouais, c'est montera34.com.
Montera34.com, où on peut trouver donc ces informations, ces données. Tout est en open source, hein, évidemment.
Ouais,
tout le monde peut télécharger, tout le monde peut se réapproprier ces données, les réutiliser pour en faire d'autres documents d'information. Merci beaucoup, Alfonso. On va se retrouver ici en direct de la Belle de Mai dans à peu près un quart d'heure pour la suite d'Hyperville. Sur le 88.8.
Radio Grenouille. 10 minutes.
La rédaction vous invite. 10 minutes avec.